Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit, comme tous les soirs, l'After est là en direct avec vous, évidemment, même pendant l'été, même pendant la période de fête, on est là tout le temps, l'After est là tous les jours de l'année en direct, c'est ce qui fait sa force, une de ses forces, l'autre force c'est l'analyse, emmenée ce soir par Florent Gautreau. Salut Florent.
Salut Gilbert, salut à tous et salut aux amis du Bémol Football Club.
Emmené par Stéphane Guy avec nous ce soir. Salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir
Florent. Salut Stéphane.
L'After est là avec la Ligue 1. Désormais, il va falloir vous habituer le lundi. Ce sera comme ça, drôle de l'âme de 20h à 22h et Ligue 1 de 22h à minuit. Voilà, pour plus de cohérence. On a décidé de se réorganiser de la façon suivante. Et l'événement ce soir, bah, évidemment, c'est la première journée de notre Ligue 1 qui nous a quand même bien régalé ce week-end avec... beaucoup de buts, on n'avait jamais vu ça depuis les années 70, 77 je crois, si j'ai bien lu. On avait des beaux matchs.
33 buts marqués.
Ouais, c'est ça. Et on va en parler ce soir. Florent, notamment, veut parler des changements gagnants de week-end dans pas mal de clubs. On en débat dans quelques secondes. On va parler de Messi, qui régale de la première journée. Alors, il y a eu enflammade générale hein, sur un retourné un peu raté. Mais enfin bon, il est tout de même beaucoup plus vraisemblablement. Du coup... est-ce que ça va durer toute la saison? On en sait un peu plus sur la préparation, sur ce qui se passe avec Galtier, donc on en débattra tout à l'heure à 22h30. Et puis à 23h, Stéphane, lui, veut parler de Tudor et de sa première hier soir. À 23h30, on évoquera les autres équipes séduisantes du week-end, Lille, Lorient et les autres, Lens, Montpellier, Monaco. D'ailleurs, Monaco qui joue demain, on a les dernières infos. Tout à l'heure, avant le match retour de demain face au PSV Eindhoven. Le 32-16 est ouvert pour parler de toutes ces équipes. Qui vous a plu ce week-end? Ce sera tout à l'heure. 32-16 donc, bien sûr, le standard RMC est là, plus le hashtag RMC Live sur Twitter, plus Direct Studio, notre messagerie, disponible, gratuite, sur les applis RMC et RMC Sport. Donc n'hésitez pas à télécharger les applis, vous pourrez avoir le privilège d'écouter les podcasts en version optimisée, en qualité sonore optimale. Donc c'est magique. Et puis c'est directement disponible, podcast, là, 2 minutes après l'émission. Pam, le podcast est en ligne. Donc si vous voulez réécouter Paulo Breitner, vous expliquer que les socios en Espagne, ça n'a aucun sens et que le vrai pays de l'association, c'est l'Allemagne.
L'Allemagne n'est pas que le pays de l'association, c'est aussi le pays du socios en fait.
Voilà. Les sociaux, mais Polo, j'ai déjà reçu des messages de sociaux qui demandent des droits de réponse. Donc on va organiser ça dans la semaine, parce que là, Polo, il nous a mis le feu à l'Espagne, Polo, il y a quelques minutes.
C'est parce que des supporters de Caen qui utilisent cette expression, le vin lièvre.
Voilà. Ah là, ça va trop loin comme référence.
Si, c'est pour les connaisseurs du football normand.
Ah oui. Caen qui gagne pour l'instant, qui vient d'avoir une grosse occasion. Et peut-être là.
Il va commenter le match.
Ben justement, allons-y. Caen Metz, c'est le match de Ligue 2 du soir. Christophe Lécuyer, salut.
Non, on laisse salut Christophe Gilbert. Pour ses œuvres.
Bonsoir à tous. Ah, je vous entendais parler de l'Allemagne, le pays de la saucisse. J'attendais que vous parliez du pays de l'andouille. C'est lequel? Stéphane le connaît.
Eh oui, c'est notre point commun, Christophe. Vire, ouais. Évidemment, où évidemment. Je suis né et où Christophe préside le club de foot. Ah.
Vous venez du pays de l'andouille.
On vient du pays de l'andouille, tout à fait.
Exactement. On en est des bons représentants, non? Vous ne trouvez pas?
Pas l'andouillette, hein? On est d'accord?
Ah non, l'andouillette,
non, surtout pas.
Ça peut être
l'andouillette, c'est un peu. Je ne sais pas si Stéphane n'est pas un peu au-dessus de toi, quand même.
Ah bon? Très bonne l'andouille de viande, en tout cas. Je vous conseille, je sais que c'est une émission, il y a beaucoup de références culinaires, l'After. Oui. Il faut un jour dans sa vie avoir mangé la véritable andouille de viande qui n'est pas facile à trouver, mais qui est un produit de grande qualité.
Je vous en ferai livrer rien que pour l'After.
C'est vrai, je croyais qu'il y avait que les produits laitiers, moi, dans votre coin. Là.
Non, c'est vrai qu'il y a du beurre, il y a du fromage, mais il y a surtout à vire l'andouille.
Un jour, je me suis engueulé à l'antenne avec Fortin. Enfin, je me suis engueulé, je l'ai vexé.
Ah, ouais.
On faisait une interview avec Fortin, très sympa, Fortin, par ailleurs.
Et lui, c'est le lait.
Et donc, je lui dis, mais vous, je dis, voilà, je dis, mais en fait, le lait, c'est pour les veaux. Vous vendez ça, et... allez, allez, il est devenu fou. Il dit quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Je dis non, mais je voulais pas vous vexer. Bref.
Fortin qui est très engagé aujourd'hui à Avranches.
Ah oui ?
Et après avoir longtemps présidé Caen, évidemment.
Avec Xavier Gravelaine.
Et très engagé avec Xavier Gravelaine à Avranches. Et puis le sponsor d'Avranches cette année, c'est la boîte de Fortin.
Un couple qui a fonctionné déjà à Caen.
Ah ouais.
Bon. Pour le match, sinon, Christophe ?
Eh ben le match anime, messieurs, c'est toujours un but à zéro pour les Canets. La 62e minute, le but signé Diani de la tête tout à l'heure à la 39e, et la parade là d'Anthony Mandrea, le gardien du stade Malherbe de Caen, pour permettre à son équipe de garder ce score d'un but à zéro, car les Messins réagissent dans cette deuxième période, et il a fallu déjà un bon Mandrea à deux reprises depuis le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, avec encore une fois une grosse occasion là pour les joueurs de Laszlo Bolonyi, qui est fou, messieurs, mais il est debout dans sa surface technique depuis le début à 69 ans, je l'ai dit, franchement c'est impressionnant, il n'arrête pas Laszlo Bolonyi. Il a d'ailleurs été averti par l'arbitre, rappelé alors par le quatrième, averti par l'arbitre, tellement il ne cesse de vivre le match à 200%, l'entraîneur roumain de cette formation du FC Metz, lui qui a remplacé Frédéric Antonetti sur le banc à l'intersaison. 63 minutes de jeu ici à Dornano, un match rythmé et un match qui s'anime en occasion avec les Canets, la frappe de Ouais, ça passe au-dessus de la barre du but d'Alexandre Oukidja. Quand je vous dis que cette partie est animée, messieurs, ça fait un but à zéro, mais on pourrait bien ne pas en rester là.
Laszlo Bolonyi, il faut lui faire parler de sa période de joueur, quand il était joueur en roumain, notamment la sélection nationale à l'époque, Ceaușescu.
De Bucarest, vainqueur de la Coupe d'Europe.
Je peux te dire que là, il y a de l'anecdote au kilomètre.
Avec le gardien du Kadam.
Chirurgien dentiste de profession, Laszlo Bolonyi.
Ouais. Voilà. Et en fait, minorité hongroise en Roumanie, très mal vue. Bref, lui, c'est une mine à histoire.
Et footballistiquement, pour les plus jeunes qui nous écoutent, quel est le grand fait de gloire de l'entraîneur Bolonyi ? Enfin, il y en a eu beaucoup, parce qu'il a une longue carrière, une longue
carrière. Il a lancé Cristiano Ronaldo.
Voilà, merci Gilbert. Merci.
Au Sporting.
Au Sporting, ouais.
Et Tony Vérel à Nancy, peut-être ?
Ah, peut-être. Tony, il a coaché longtemps Tony Cascarino.
Voilà, parce qu'il a entraîné Nancy. Je suis sur sa fiche. Tony Vérel, c'est 94-2000, son premier passage à Nancy.
Il a dû lui donner ses premiers
matchs. Il est parti à Nancy après.
Il est au Sporting Portugal entre 2001 et 2003.
Le poteau pour sauver Anthony Mandrea, la nouvelle occasion pour le FC Metz avec Georges Mikotadze, qui a armé sa frappe du droit, et le poteau pour sauver Mandrea. Tout à l'heure il avait été décisif, le gardien Canet, là il a un peu de réussite parce qu'il est sauvé par son poteau gauche. Metz qui pousse dans cette partie, mais les Messins sont toujours menés 1-0 ici sur la pelouse de Dornano après un petit peu plus de 64 minutes.
On n'est pas loin d'avoir avec Metz, Caen et Guingamp, on est en train de voir trois des très grosses équipes de celles qui vont jouer la montée là.
Ah, la Ligue 2 cette année, attention, parce qu'il n'y a que deux
passage,
montées.
Je vous conseille quand même.
Sur Bordeaux, Saint-Etienne, le Paris FC et l'autre.
Il faut avoir vu le but de Livolant, Guingamp est quand même sur le week-end. Il y a un but à voir, c'est celui-là. C'est sans doute déjà le but de l'année en Ligue 2.
Jingle Gautreau, s'il vous plaît, pour cette fois par Ligue 1.
Johnny Longo, peut-être qu'il faut attendre.
D'où l'expression véhiculo longo.
Ça, c'était nul.
On n'a pas tout entendu, c'est pour ça que c'était nul.
Alors, Florent Gautreau est le spécialiste de la Ligue 2, vous le savez, mais il peut aussi parler de Ligue 1. Donc, tu voulais revenir sur.
Il n'y a pas beaucoup de différence parfois entre Ligue 2 et Ligue 1. Il y en a 4 qui vont y aller, là. Ils ne le savent pas encore, mais.
Oui, merci.
Voilà, donc,
13 clubs de Ligue 2 cette année qui ont joué en Ligue 1 au 21e siècle.
Voilà.
Ah oui.
Très bonne stat.
Donc c'est sur 20 équipes.
Optagui.
tu voulais parler des tu voulais parler des changements gagnants du week-end.
Oui, changements dans toutes leurs formes, mais notamment les changements d'entraîneur, parce que alors on va pas dire que c'est des paris réussis définitivement, c'est la première journée, mais quand même sur les 5 entraîneurs qui ont connu leur première journée avec leur nouveau club, 4 ont gagné et un a fait match nul, c'est Favre à l'extérieur à Toulouse. Sinon Galtier évidemment avec le PSG, Tudor avec l'OM, Fonseca avec Lille, Lebris avec Lorient. Donc voilà, faut le dire parce que certains, c'était pas si évident que ça. Lorient, par exemple, l'histoire Pélissier aurait pu
continuer. Dans les 5 que tu cites, il y a que Lebris pour qui ça peut être une. Les autres, ça c'est prévisible que Lille, Paris, Marseille gagnent à domicile.
Oui,
Paris était à Clermont.
Non, mais Paris était à Clermont, mais sachant que Marseille, Tudor quand même, il a vécu une semaine et un moment très très compliqué, donc il était quand même attendu au tournant. Lebris, je disais, il a été accueilli à bras ouverts à Lorient parce que c'est un homme du cru, mais il prenait la succession de Pélissier, il fallait aller jouer à Rennes pour le premier match. Favre à Toulouse, il s'est rendu compte que c'était pas simple. Là, lui aussi a été accueilli à bras ouverts. En tout cas, c'est pour dire que il y a des choix qui sont faits, y compris ceux de Galtier d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été accueilli par tout le monde, lui non plus, très favorablement au Paris Saint-Germain. En tout cas, ils ont marqué déjà leur territoire et je trouve ça plutôt bien pour la nouvelle saison parce qu'on l'avait dit et je pense notamment à des coachs comme Fonseca, je pense que ça va apporter quand même des choses à la Ligue 1, c'est des coachs qui ont envie de jouer. Le Brice aussi à Lorient, c'est quelqu'un qui apporte et
les coachs qu'ils ont remplacés, ils jouaient pas au foot.
Bah moi pour Gourvennec, oui, je te confirme, j'étais pas un fan. Non, j'aimais pas, je l'ai dit dès le début de la saison dernière et
Gourvennec,
j'ai pas
Gourvennec, il a géré
une succession compliquée, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus,
et il a mené pour la première fois Lille en huitième de finale de
peut-être, mais en Ligue 1 très souvent son équipe, y compris dans le jeu, a été décevante. Alors il a peut-être été trahi par ses joueurs, peut-être c'était compliqué, et ça c'est vrai, on l'avait dit au début de la saison de ce qui était à Galtier, mais voilà, Fonseca arrive avec certaines garanties en termes de jeu, ça ne veut pas dire qu'en termes de résultats il fera mieux que Gourvennec. Le Brice arrive aussi escorté d'une idée un peu différente. Favre,
pareil, ce que je dis pour Gourvennec, je pourrais le dire pour Pélissier qui a fait un travail remarquable
dans les vidéos, dans
ses clubs d'avant et notamment à Lorient.
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais dit l'an dernier que Clermont et Lorient se sauveraient par le jeu et c'était le cas, même si ça a été parfois un peu chaud pour Clermont. Ce sera plus chaud cette année d'ailleurs pour eux. Voilà. Et après, j'étais dans l'idée du changement. J'ai remarqué aussi un truc qu'on avait vu un peu d'ailleurs à l'occasion du match Monaco PSV, c'est que les prépas foncières sont ce qu'elles sont et les titulaires ont un peu de mal parfois à aller au bout de on va dire de leurs 60 minutes parce qu'on voit que les changements se font assez tôt en ce moment eu égard à la prépa et aussi à la chaleur et souvent les entrées en jeu sont décisives. Enfin on a vu par exemple dans le match de Monaco contre le PSV que les quatre entrants offensifs avaient été finalement meilleurs. Alors après on dit ah bah le coach s'est peut-être trompé, c'est pas aussi simple que ça, c'est que forcément ceux qui jouent 70 minutes ont un peu plus de mal et on l'a vu encore ce week-end avec même à Marseille où l'équipe menait l'entrant a marqué le doublé, j'ai oublié son nom, Luis Suarez. Et Bakambu d'ailleurs passeur décisif, il est rentré. Ramsey avec Nice qui est entré en jeu également. Et même à Lyon, effet inverse, ils ont fait la différence très tôt. Ils ont été très forts sur la première période et un peu moins derrière. Les bandes touches, les changements, le nombre de changements auxquels on a droit maintenant, on le dit depuis un petit moment, je trouve que c'est encore plus frappant dans les débuts de saison.
Ça va révolutionner le foot.
Ouais, je pense que c'est un nouveau foot parce que aujourd'hui, tu vois que les quatre changements offensifs de Monaco, ça m'a frappé lors du match contre le PSG. Ont tout changé. Et hier, pour être allé au match Rennes-Lorient, les sorties des quatre titulaires auraient dû d'ailleurs intervenir plus tôt. Et ceux qui sont entrés, notamment Doku et Désiré Doué, ont été bien meilleurs sur 20 minutes. Donc, c'est pas révolutionnaire. Le coaching, ça a toujours existé. Mais c'est peut-être encore plus marquant dans ces périodes de post-préparation d'été. Donc, le changement, c'est maintenant. L'important, c'est le changement. Je trouvais qu'il y avait eu des choses. C'était assez, tu l'as dit, les chiffres étaient assez impressionnants. C'était assez sympa. Les nouveaux coachs ont réussi. Je trouve ça plutôt bien. Je veux dire par là que même ce qui arrive à Tudor, je trouve ça bien, en tout cas, que, on va dire, les polémiques ne l'emportent pas avant même qu'on ait joué au foot, quoi. Ils ont gagné un truc,
mais ils ont gagné du temps, Reims. Surtout.
Un peu de temps pour travailler. Temps, voilà. C'est ça. Et donc, je trouve, même Galtier, il a réussi son entrée en lice avec le PSG. Ça laisse un petit peu présager d'une saison où on va parler de foot, un peu de résultats et pas seulement de pronostics.
Tu ouvres le débat sur deux thèmes, là, selon moi. Ouais. Les coachs qui reprennent, on va dire, un peu la main. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance ces dernières années à parler des joueurs et à quelques rares exceptions près, type Bielsa, Guardiola, bon je prends les plus emblématiques, voilà. C'est souvent un peu la république des joueurs qui ressort, c'est le joueur et puis Platini qui te répète souvent, c'est un des rares trucs sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, qui te répète souvent de toute façon le foot c'est les joueurs, etc. Là, tu vois des équipes avec des styles totalement différents et en l'espace de un mois de travail, pam, l'équipe a complètement changé avec globalement les mêmes joueurs. Tu prends l'exemple de Lille par exemple, moi je suis assez d'accord, c'est avec Gourvennec, entre Fonseca et Gourvennec, t'as l'impression que qu'est-ce qui s'est passé? Alors On peut rentrer dans les détails.
Ah, mais vous m'amusez, vous. Enfin, moi, ça me plaît de voir tirer des conclusions après 90 minutes de jeu.
Bien sûr.
Moi, je le souhaite, et je pense qu'il y a une dynamique nouvelle à Lille.
Et après, je veux qu'on revienne sur l'histoire de changement, parce que, on va le faire. Moi aussi, j'ai des choses à dire sur les 5 changements.
Quand vous reprenez, juste un mot sur Gourvenec. Vas-y. Moi, je ne vais pas le défendre à tout prix, hein. J'ai pas d'intérêt dans la CRL Gourvenec, hein. Je suis pas actionnaire. Mais, on peut pas comparer les situations. Quand il reprend un club qui est champion de France, qui est traumatisé par le départ de son entraîneur, où il y a des gros caractères à gérer et des joueurs qui sont plus un peu déclinants, style Bourac, etc. Et un entraîneur qui arrive avec une page un peu plus blanche, avec un renouvellement important de l'effectif, avec une autre confiance, etc. C'est pas la même problématique.
Non, mais là,
ça n'empêche pas.
Je pense que la vérité elle est différente. La vérité c'est que peut-être que Gourvenec est un excellent coach, et des fois tu arrives dans des clubs où en fait les circonstances sont pas bonnes pour toi, ça te correspond pas, et puis il y a une dynamique pourrie qui s'installe, et tu peux plus rien.
Ça fait plusieurs fois que c'est compliqué.
Tu peux plus rien faire. Non mais des fois ça arrive. Prenons l'exemple de Galtier à Nice. Au fond, il est parti fâché. Les joueurs le supportaient plus. Il y avait des problèmes dans le vestiaire. Oui, on peut pas dire que Galtier est un mauvais coach.
Il fait 5e finale de Coupe de France, donc il y a pas d'échec de Galtier à Nice.
Je suis d'accord.
Par contre,
ça se termine mal quand même.
Ouais, bien sûr.
Oui, mais enfin, il a quand même Galtier.
Et personne ne va dire Galtier est mauvais.
Non, mais parce que Galtier, si tu prends toutes ces dernières années, y compris effectivement à Nice là, ça fait quand même des belles performances. Premier avec Lille, 5e avec Nice première année.
Surtout, pour moi, le grand fait de Galtier, c'est ses 10 ans à Saint-Etienne.
En plus,
il a rapporté des moyens. Voilà, ça c'est formidable. Ce qu'il a fait à Saint-Etienne, c'est.
Je pense que Stéphane sur Gourvenec, c'est pas tant.
Je veux dire, c'est que c'est facile d'enterrer Gourvenec. Un 4-1 brillant de Fonseca. Moi, je connais pas Fonseca.
Franchement, Stéphane. Mais on aurait changé l'exemple de Pélissier.
J'entends ça. Le trailer étranger arrive, clac.
Non, franchement, je vais te dire la vérité. Tu reprends les afters de l'an dernier en juillet. Peut-être que j'avais tort de le penser. Je pensais qu'effectivement, pour la raison que
je sais qu'il était plombé avant même
d'arriver. Oui, c'est vrai. Parce que malheureusement, en termes de jeu, et même si j'ai été surpris effectivement de ce qui se passe en Ligue des Champions, parce qu'ils ont plutôt performé, je pense que derrière, c'est pas que le jeu sur le jeu, c'est la mainmise que tu as sur le vestiaire pour arriver à faire en sorte que tu puisses faire jouer ton équipe. Donc, que tu le veuilles ou non, Gourvenec, à un moment donné, en Ligue 1, ça a lâché. Alors, on peut dire que c'est les joueurs qui ont lâché, mais c'est aussi le coach qui n'a pas réussi à faire en sorte que ses joueurs ne lâchent pas. Et en Ligue 1, ça n'a pas été bon. Même la deuxième partie de saison n'a pas été très bonne.
Je pense que
la durée de vie des coachs est de plus en plus courte.
Oui, mais même sans parler de ça.
Par ailleurs.
L'an dernier, honnêtement, quand j'ai vu arriver Gourvenec, j'étais pas très séduit parce que j'ai rarement été séduit par ce que faisaient ces équipes. Mais je considère aussi, et là, t'as raison, que le double effet, c'était le fait de succéder à Galtier, que c'était une trop lourde succession, qu'il avait sauté dessus parce que ça ne se refuse pas, Lille et tout, mais que ça allait être très compliqué. Et qui pouvait gagner le trophée des champions quand même. Il a quand même fait ça. Il a remporté le trophée des champions.
Fait un parcours avec des champions qui mérite.
C'est vrai.
Qu'un club français gagne sur la pelouse de Séville, ce n'est jamais arrivé. C'est le premier dans un match décisif. C'est le premier à l'avoir
après,
fait.
Après sur Fonseca,
c'est pas rien comme.
Non, mais après sur Fonseca quand même, il arrive avec là pareil. Ça veut pas dire qu'il va réussir en termes de résultats, mais sur le jeu, il arrive avec certaines choses qu'il a envie de mettre en place, qu'on connaît ailleurs. Donc après, est-ce que ça va marcher à Lille? Je sais pas. T'as raison, c'est pas le match d'hier qui, effectivement, contre Auxerre. Qui est effectivement au CERF, dont on avait vu que l'intersaison était compliquée.
Et puis un match, tu marques au bout d'une minute.
La dynamique s'installe.
C'est une minute, c'est vrai que.
Tant mieux. Puis visiblement, c'est le fruit d'une bonne préparation.
Ne te focalise pas uniquement sur Gourvenec, parce que ça vaut aussi pour Pélissier, en fait, ce truc.
Ouais.
C'est-à-dire que Pélissier, personne ne va dire Pélissier est mauvais.
Non.
Et Pélissier, il a fait des bons trucs Amiens, il a fait des bons trucs à. Sauf qu'au bout d'un moment, t'arrives à un moment où tu n'y arrives plus, parce que des fois, c'est même pas de ta faute, en fait.
T'y arrives plus, ouais.
Non, parce que il y a une dynamique, parce que t'as un problème dans le vestiaire, parce que tu trouves pas la solution.
Parce que t'as peut-être, parce qu'un président, il a
parce
un jeune
fatigué,
entraîneur qui a faim et qui dit, c'est.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
22h20, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là, Direct Studio est là également. J'ai Lionel qui m'envoie un message qui me dit: Gilbert a raison, je suis étudiant en naturopathie. Effectivement, le lait de vache est destiné aux veaux et surtout pas aux humains. Voilà, c'est mon message à Jean-François Fortin. La Ligue 2, Cornes.
Moi, j'ai été élevé au lait de vache, Gilbert, parce que
ça porte bien.
Au lait de vache, mais véritable, c'est ressorti des pieds de la vache, ouais. Donc pas les laits qu'on trouve en pharmacie aujourd'hui, etc. Et tout va bien a priori, quoi, pour l'instant. Je sais pas si je durerai longtemps, mais
jusqu'ici tout va bien.
Au pur lait de vache, voilà.
De la campagne de Saint-Sever.
Ouais, une info importante. N'est-ce pas, Christophe?
Eh ouais, du lait de la campagne de Saint-Sever, le bocage virois.
Saint-Aubin-des-Bois.
Saint-Aubin, exactement. Tout à fait.
On va vous laisser, hein, les gars.
Bon, bon, en tout cas, Jean-François Fortin, il doit être comme nous. Hein. Il doit souffrir si on est supporter du Stade Malherbe. Il reste 11 minutes à jouer. Caen mène 1-0. Mais ça tient parfois au miracle. Les Canets qui s'en remettent au poteau, aux arrêts de Mandrea, voire parfois aussi, il faut bien le dire, à l'inefficacité des attaquants messins. Tout à l'heure, une tête de Gueye là, qui est passée juste à côté. Les Canets jouent en contre désormais. Et pour cela, bah, rien de tel que Zadi Seri qui est rentré sur le terrain, le petit Ivoirien là, qui s'est offert un petit raid solitaire et qui a semé la panique dans la défense messine. Mais s'ils ne se mettent pas à l'abri dans les minutes qui viennent, les Canets, ils risquent en tout cas de prendre un but avant la fin parce que les Messins ont désormais la maîtrise du jeu. Il reste 10 grosses minutes à jouer ici sur la pelouse de Dornano et c'est toujours Caen dans ce match de haut niveau de Ligue 2 qui mène 1-0.
À tout à l'heure. Allez, oui, parlons un peu de ces histoires de changement, outre la patte des coachs que l'on voit donc sur cette première journée. Parce qu'effectivement, ce sont les entraîneurs qui ont poussé, notamment, rappelez-vous de Mourinho, de Guardiola, les entraîneurs
les emblématiques. Les clubs riches, ceux qui ont beau des effectifs de folie.
Exactement, qui ont dit les cinq changements. Alors au départ, c'était pendant la pandémie, et puis on a tout de suite dit dans l'after, rappelez-vous, vous allez voir que ça va rester, parce que, évidemment, ça offre une sorte de sécurité et de matelas au coach et tout, sauf que à bien y réfléchir, c'est là qu'on va voir le mec qui s'est anticipé, le mec qui connaît les qualités de ses joueurs, parce que faire du coaching, en fait, c'est un talent. Souvent, on reproche à certains coachs. Par exemple, souvent, moi, je me souviens de débat d'équipe de France, Deschamps, on dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ses changements trop tard. Souvent, on avait ce débat, notamment dans les grandes compétitions et tout. Là, avec les cinq changements, effectivement, quand on arrive à changer toute une attaque, par exemple, d'un coup, à faire rentrer trois mecs, enfin, ça se décrypte quand même. Nous, on va s'amuser maintenant à décrypter tout ça.
Ça révolutionne le foot. C'est une autre façon de. C'est le grand discours de Roland Courbis. Qui disait qu'un match il était titulaire de la première mi-temps, comme il disait toujours.
Ça c'était pour faire passer la pilule à ses remplaçants.
Mais aujourd'hui
il disait toi t'es titulaire de la deuxième mi-temps.
Ouais, c'est ça, mais aujourd'hui on peut raisonner comme ça. Et en plus avec les analyses,
un match se joue plus à 11 mais à 16.
Physiques des joueurs où ils savent qu'un joueur au bout de 60 minutes, 58 minutes, 53 minutes lâche, ils auront cette tentation de partir avec un 11 et de le modifier radicalement.
Tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire faire par exemple d'un attaquant une sorte de mec de panique substitute sur les 20 dernières minutes par exemple. Tu dis toi, je te préviens, là on est lundi, samedi tu joues 20 minutes.
Oui, tout à fait.
Parce que je sais pas, on joue par exemple au Parc des Princes, on sait qu'on va être en galère, j'ai besoin de toi 20 minutes par exemple.
Et puis il y a des joueurs dont on sait qu'ils n'ont aucun impact quand ils rentrent en jeu, en revanche ils en ont quand ils débarrent, et d'autres inversement, etc. Donc ça, c'est déjà intégré par les entraîneurs, hein. Le débat qu'on a là, ils l'ont déjà eu avant nous.
Oui, bon, observons-les alors de près.
En Angleterre, ça n'était pas le cas, hein, jusque-là. Les cinq changements, c'est seulement à partir de cette saison.
Voilà.
Ils ont résisté pendant une.
Moi, fondamentalement, je suis contre. Hein. Parce que la dramaturgie du foot, c'est aussi la fatigue, la gestion des émotions sur la fin de match.
C'est toujours tout ça. C'est toujours l'éternel débat. C'est comme déjà PSG à 800 millions d'euros, clairement, on a 30. Si en plus PSG peut faire rentrer 5 joueurs.
Renato Sanchez, Vitinha, Fabien Ruiz.
Et les 5 remplaçants de Clermont, ils n'ont pas le même niveau.
Tu fais rentrer qui ticket au PSG et qui tu fais rentrer effectivement à Clermont. Non, sur les 5 changements, c'est vrai qu'on se rappelle qu'on est parti quand même d'un foot où il n'y avait aucun changement et où tu finissais les matchs à 10 quand tu avais un blessé pour arriver maintenant à des.
Finalement, que l'équipe de France en 58 à la Coupe du Monde contre le Brésil a joué quasiment tout le match à 10.
Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça me fait penser un peu au hockey sur glace quand je vois les changements en même temps, quand tu vois le nombre même de joueurs qui rentrent sur le terrain, comme tu avais les lignes au hockey qui rentrent, c'est assez étonnant. Et tu as quand même des entraîneurs qui ont encore un tout petit peu de mal. Alors là, plus globalement, avec les changements et la précocité des changements, tu vois, on a beaucoup parlé de Genesio l'an dernier parce qu'il a été élu meilleur coach de Ligue 1. Tu sens qu'il a toujours une forme de réticence, c'est-à-dire qu'il a souvent confiance dans son 11 de départ. Et même hier, où vraiment ça ne se passait pas très bien, il a effectivement encore fait les changements relativement tard. Alors que les 5 lui permettent en tout cas d'étaler, en tout cas pour en faire. Aujourd'hui, tu peux ne plus hésiter à en faire un à la 46e, par exemple. Parce qu'on a 4 derrière.
Pep Guardiola, qui est quand même le coach, the coach, fait très rarement ces 5 changements en Angleterre. Enfin, c'était 3, mais il faisait très rarement les 3. Ouais. Il y a beaucoup de matchs où je faisais un, y compris en Ligue des Champions. Vous regarderez des grands matchs de City en Ligue des Champions contre le Real. Je suis pas sûr, par exemple, qu'il fasse les 3 changements. Et c'est ouais. Alors pourquoi j'ignore les raisons de cela, mais
ça dépend un peu aussi des effectifs. C'est vrai qu'Ancelotti, à l'inverse, avec un milieu de terrain plus vieillissant, lui, c'était carrément appuyé sur ses jeunes et avait fait entrer.
Arsène Wenger était aussi pas raillé, mais en tout cas amusé beaucoup parce qu'il faisait toujours ses trois changements à la même minute.
À la même minute,
65e. 67, 76.
voilà, c'est un hommage au Barin.
C'était réglé que du papier à musique, quoi qu'il se passe.
Oui, mais dans cette configuration à 5 changements aujourd'hui, mieux vaut être défenseur qu'attaquant. Parce que tu peux te retrouver avec un temps de jeu sur une saison deux fois moindre qu'un défenseur central, par exemple, ouais, ou un milieu défensif.
Ah oui, et c'est vrai que là, le changement, t'as raison, les changements, ah oui, pour donner, c'est l'équipe menée, bah
c'est l'attaquant
qui change son escouade offensive. Et je regardais hier, justement, à Rennes, la board.
Mais c'est paradoxal, ça donne plus de valeur à l'attaquant, mais il joue moins.
Il y a trois changements annoncés en même temps. Et je voyais que les joueurs ne le savaient pas forcément qui allait sortir. J'ai regardé la board qui tournait en rond. Premier changement, c'est pas moi. Deuxième changement, c'est pas moi. En espérant rester. Troisième changement, ah merde, c'est moi. Trois, quand même. Et t'as le quatrième avant qui a eu lieu. C'est-à-dire que les quatre joueurs offensifs sont sortis quasiment sauf Terrier. Sur les cinq, il y en a quatre qui sont sortis.
C'est aussi au coach, peut-être, dans la psychologie, dans leur gestion mentale des joueurs, de les prévenir, de dire à la mi-temps, attention, il te reste un quart d'heure, ou un arrêt de jeu, attention, voilà. En tout cas, ça modifie leur métier et leur rapport aux joueurs, c'est sûr.
Et alors après, c'est vrai que par rapport à ce que disait Coach Courbis, le seul intérêt en termes de management, pour le coup, puisqu'on dit souvent, Giroud l'avait dit très tôt, le plus dur dans une équipe, c'est les remplaçants.
C'est ceux qui font le moins de changements.
Non, mais c'est ceux qui jouent pas. Il voulait dire, je parlais du management en général, il disait, le plus dur, c'est de gérer les remplaçants plutôt que les titulaires. Là, globalement, ça donne quand même plus de possibilités. Alors même si les groupes aussi se sont élargis, ça donne plus de possibilités à des joueurs. Je prends l'exemple de Sofiane Diop à Monaco, qui était pas du tout dans les petits papiers de Clément. En un match contre le PSV la semaine dernière et une titularisation hier, il revient, il a plus de possibilités, d'opportunités pour.
Attends, parce que moi, je te renvoie ton argument. Regarde le pauvre Danilo. Danilo, avec 5 changements, quand il voit rentrer un gamin de 16 ans à sa place à Clermont, je peux te dire que là, tu peux aller le gérer, parce que là, il a compris qu'il faut juste qu'il se casse, en fait. C'est, tu vois.
Ah, bah oui, c'est sûr aussi, ça arrive. Bon. Mais en tout cas, il reste quand même que t'en fasses 3 ou 5, enfin, que t'en aies 3 ou 5. Tous les coachs n'ont pas la même appétence, je dirais presque générationnellement pour les changements.
D'ailleurs, tiens, je ne sais pas si vous avez écouté l'After Weekend, mais ça a été un des débats lancés par Coach Courbis sur donc l'entrée en jeu du jeune Zaïre Emery, 16 ans, où Roland disait mais lancer un gamin à 16 ans, en fait, c'est n'importe quoi. Il disait que c'est physiologiquement une aberration. Il prenait les exemples qu'il a connus, lui, comme coach, Rousset, Paganelli.
Il a entraîné Paganelli à Toulon, Roland, ouais. Quand il raconte son début de carrière, c'est. Bon, c'est notre époque aussi, c'est notre football, mais c'était dramatique. Parce que Paga, il est rentré et il a été un an sans jouer après.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il est rentré, tout le monde se souvient du premier match au Parc des Princes avec Saint-Etienne à 15 ans et quelques mois. Et après, il est un an sans jouer, il comprend pas pourquoi, etc. Enfin, c'est une gestion complètement incroyable.
Non, mais donc, moi, je suis pas loin de penser que Roland sur ce dossier-là a raison.
Il y avait des traquenards.
Oui, en plus, c'était pas les mêmes.
Physique, quand t'avais 16 ans, te prendre, Luigi Alfano, par exemple, à l'époque.
les joueurs démarrent très jeunes Rodet était un phénomène de précocité, il a démarré à 16 ans et il est jamais vraiment
sorti. Jérémy Ménez a démarré à 16 ans, il n'a pas connu non plus de grosses blessures.
Ça, c'est pareil. Après, je pense que chaque physiologie est différente.
Allez, dans quelques instants, on parle de Messi. Le 32-16 est ouvert, supporter parisien. Messi va-t-il faire une grande saison?
Galtier. Il a démarré à 16 ans. Hein.
Galtier, il a démarré à 16 ans, Messi?
Ah oui.
Ah, j'aurais 17 points.
Je peux te l'accorder.
Bon, certains vont te dire, ouais, mais. Il y a les piqûres d'hormones de croissance. Est-ce ça que
fait,
ça joue
Oui, ça fait combien 18 ans qu'il est au top niveau.
C'est, sauf l'an dernier.
33, il a Messi ou 35? 87, 35 ans.
35 ans, ouais. Allez, on parle de Messi, 37.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
22h33, Florent Gautreau est là, Stéphane Guy est là également, et la Ligue 2, le match Caen-Metz continue, on est dans le temps additionnel, Christophe Écuyer.
Alors, bien d'y rentrer dans le temps additionnel, effectivement, Caen mène toujours 1-0, le but inscrit en fin de première période par Diani, il a fait justement tous ces changements, Stéphane Moulin, pour forcément essayer de jouer le compte, parce qu'il sait que son équipe souffre en fin de match, les Messins là qui sont une nouvelle fois à l'attaque avec Nian, justement à l'entrée de la surface de réparation, les Canets qui sont sous pression, qui ont du mal à se dégager, les jambes sont lourdes, mais des deux côtés, dans cette fin de partie, il reste un petit peu plus de 3 minutes à disputer dans le temps additionnel, toujours ce petit but d'avance pour Caen qui mène 1-0.
Tiens, et puis sur Direct Studio, j'ai Ayrton qui nous rappelle que Fabregas a également démarré à 16 ans.
Oui.
Bon, voilà. Alors, Messi, on en parle parce que il y a eu dans la conférence de presse d'après-match de Galtier des infos qui ont été données.
Fabrega, justement, donc c'est l'exemple d'une carrière qui a beaucoup duré, et joueur qui a battu des records de précocité comme lui, Jack Wilshere, qui a totalement, qui est passé totalement, enfin pas passé à côté de sa carrière, il a fait carrière malgré tout, mais bon, très très loin des espérances de départ. Et lui avait été lancé pareil, je pense qu'il est, il est lancé, ce qu'il, il a dû battre certains records de précocité de Fabregas d'ailleurs.
Non mais voilà. c'est enfin moi je pense que c'est un vrai sujet parce qu'il y a le développement physique du gamin, de l'ado, et puis il y a la gestion mentale de ce qu'est le foot de haut niveau.
Bien sûr, la capacité à assumer tout ça.
Moi je comprends tout à fait que tu puisses exploser dans ta tête à 17 ou 18 ans. Enfin bref.
C'est en cela que Mbappé encore une fois est si particulier, c'est d'avoir suggéré aussi jeune une telle attente parce que Monaco il a 17 quand il est titulaire quoi.
Moi je dis souvent à Daniel quand il allume les jeunes là, je dis tu sais désormais les pédopsychiatres considèrent qu'on est adolescent jusqu'à 22-23 ans. Mmh. Bien, donc faut avoir un minimum d'indulgence des gamins quoi en fait. Enfin nous sommes tous pères de famille. Voilà, je sais pas si nos enfants à 17 ans auraient fait des footballeurs.
Mais c'est même vertigineux de se dire ça, de se projeter soi-même, de se dire qu'à 18 ans, on devient un adulte, un homme avec des responsabilités, avec le jugement des autres en permanence, avec le poids des responsabilités, etc.
Et de l'after.
C'est vertigineux.
Et l'after sur le dos. L'after après sur chaque le dos. Match.
C'est vrai. Mais bon, au fond, on est des gentils. Alors, oui, Messi. Truc très intéressant, enfin déclaration très intéressante de Galtier, samedi soir. Il a expliqué qu'il avait longuement discuté avec Messi au Japon. Et qu'en gros, le truc était très simple. Hein. Il allait le voir et il disait, écoute, explique-moi ce que tu veux faire. Comment tu veux jouer. Voilà. Et on va y aller. Je vais t'écouter. Je vais faire en fonction de toi. Alors, j'extrapole un peu. Enfin, c'est ce qu'il a dit avec ses mots à lui. Bon, il se trouve que Messi, bon, alors vous allez me dire que c'est Clermont, une nouvelle fois, mais enfin, on sent quand même un Messi totalement, évidemment, préparé différemment de l'an dernier et tout. On a l'impression, effectivement, qu'il y a une entente, qu'il y a un truc avec Neymar, une connexion qui se fait, qui ne se faisait pas avant. On l'a vu aussi dans les matchs de préparation. Bon, est-ce que vous essayez?
Il y a une préparation, Gilbert, ce qui est fondamental, une expérience.
Donc, est-ce qu'il va nous faire une grande saison?
Une expérience vécue ensemble avec ses partenaires, avec des moments hors et sur le terrain, avec préparation physique, évidemment. Alors, bien sûr, c'est Clermont, c'est très, très, très compliqué de tirer des conclusions, parce que Galtier a fait tellement mieux que Mauricio Pochettino, que PSG l'an passé a gagné 6-1 à Clermont et 5-0 cette année. Hein. Donc,
tu fais bien de le rappeler parce qu'il y a quand même une enflammade de folie samedi soir.
Voilà. Et ils ont gagné 6-1 en mars ou avril, hein, donc à un moment où ils étaient la tête dans le seau. Donc voilà, bon, bref, ils ont battu Clermont. Mais par contre, ce qui ne trompe pas, c'est les attitudes, c'est les sourires, c'est la joie que ces hommes-là ont manifesté, et notamment Messi, qu'on a senti peut-être pour la première fois, à part son premier grand match avec Paris contre Manchester City en Ligue des Champions, c'est la première fois peut-être qu'on le voit aussi heureux sur un terrain.
Flo, t'es d'accord ?
En fait, il y a deux choses. Dans ce que tu soulèves, c'est que d'abord, sur Messi, je suis pas très...
Quand a gagné, Flo, parce qu'il y a des priorités quand même dans la vie.
Ah oui, Christophe, score final.
Ouais, c'est fini, ici à Caen, devant près de 16 000 supporters, quand même, ce soir, pour cette affiche de Ligue 2, courte mais importante, victoire des Canets, 1-0, l'unique but de la rencontre, marqué à la 39e par Djibril Diagne, mais en tout cas, une belle opposition entre deux formations, sur qui, messieurs, c'est indéniable, il faudra compter cette saison en Ligue 2.
Merci Christophe, bonne soirée.
Merci messieurs, bonsoir.
Caen a terminé 7e l'an passé, et notamment parce que Caen est redevenu en 2022 intraitable à domicile. Et dans ce match-là, on voit bien les vertus de ça, parce qu'ils ont quand même beaucoup souffert.
On a bien compris que tu es plus Canet que Havre.
C'est mon club de cœur, oui, je ne m'en cache pas.
Très bien.
Messi ?
Pardon, oui. Flo.
Non. Donc sur Messi, sur le joueur, je suis pas très étonné par rapport à tout ce qu'il a dit, notamment l'interview qu'on avait décrypté avec Georges Quirino, tu sais, en Argentine, où il racontait finalement de manière très humaine que il avait des problèmes d'adaptation comme n'importe quel footballeur, parce qu'il a quand même changé radicalement de vie, y compris il a raconté les pleurs, ses enfants, la rentrée scolaire, le truc. Ce que je trouvais très bien, parce qu'après tout, ce que tu as dit sur les jeunes de 16-17 ans, ça peut aussi être vrai pour quelqu'un de 36 ans qui fait le premier gros changement de sa vie. Donc il y a plein de raisons, personnelles et sportives. Donc j'ai pas douté qu'en plus dans une année de Coupe du Monde, Messi pourrait performer et qu'il n'avait pas perdu tout son talent. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est Galtier, dans ce que tu as dit qui m'a intéressé, parce que On dit Galtier a réussi, fait un parcours sans faute, qui est vrai. Mais son management, sans le remettre en cause, parce que c'est une de ses qualités, même dans d'autres clubs, ça a été une de ses qualités dans les autres clubs où il est passé, est assez simple, si je peux dire. C'est-à-dire que globalement, il fait ce que les joueurs attendent et espèrent. Alors, il a mis un coup de vis avec Luis Campos sur le thème, la charte.
C'est pas ce qu'il a fait à Nice.
Non, mais justement, là, je te parle du PSG. Je te dis là, pour l'instant, il fait trois derrière.
Il s'adapte à son public.
Ramos est là. Trois derrière, oui. Hakimi, Mendes préfère jouer dans un système à trois derrière. Ramos, Kimpembe a peur de perdre sa place. Tu perds pas ta place, on va jouer à trois derrière. Messi, je discute avec lui, tu veux jouer où? Tu veux jouer un peu 10? Donc, je veux dire par là que j'entends tout ce qui se dit sur Galtier. Je reconnais, avant même qu'il arrive au PSG, que c'est un très bon manager. C'est même peut-être une de ses premières qualités. Mais j'ai pas l'impression que là, il a inventé un truc incroyable. Plutôt que de dire, bah Galtier, pour l'instant, il donne les clés tactiques, hein, j'entends, à ce que demande la majorité de ses joueurs, pour l'instant. Je dis pas qu'il y aura pas d'autres choses à gérer parce qu'ils sont bons.
Une opération séduction, que
voilà. Galtier. Oui, mais non, mais j'entends, je peux j'écryptais juste justement un peu l'enflammade, tu vois. Et je dis, il fait un très bon début, il y a rien à dire. Les joueurs sont heureux et sont bien préparés. Je pense que le tour de vis, mine de rien, n'a pas été inutile sur les thèmes. Attention, cette année, on va vous coacher. Il n'a pas fait un truc incroyable.
Deux éléments. D'abord, tous ces hommes-là, tous ces joueurs du Paris Saint-Germain, ont les yeux fixés sur la Coupe du Monde, qui est le rendez-vous de fin d'année. Donc, j'ai toujours pensé qu'il n'y aurait aucun problème jusqu'à la Coupe du Monde, que Neymar, Messi, ils sont en mode Coupe du Monde. Donc, elle se prépare maintenant, la Coupe du Monde. Elle ne se prépare pas en octobre ou en novembre. Donc, c'est évident que ces hommes-là ont ce rendez-vous-là en tête. Deuxièmement, par contre, et là où on peut peut-être se poser des questions, c'est OK, Messi, homme libre. Donc c'est finalement lui qui décide un peu, si je suis votre raisonnement, qui décide. Donc le projet du PSG est entre les mains de Léo Messi, comme c'était le cas au FC Barcelone. Sauf que le FC Barcelone, sur les 5 dernières années ou 6 dernières années de Messi en Ligue des Champions, a systématiquement échoué. Donc est-ce que mettre Messi dans ce rôle-là permettra au Paris Saint-Germain de réussir le seul objectif pour lequel il est taillé et sur lequel il sera jugé, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions? Donc ça, c'est une question qui est très prématurée, évidemment.
François avec nous.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut qu'il soit heureux, Messi. C'est la base. C'est comme Hakimi, comme Ramos, comme Kimpembe, comme tous. Et que pour l'instant, c'est ce qui se dégage.
François, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous. Messi, là, comment tu sens sa saison?
En fait, je suis d'accord avec Stéphane et également avec Flo. Je pense que jusqu'au Mondial, ça va être top. Ça va être top déjà parce qu'il a eu une vraie préparation physique. L'année dernière, c'est vrai qu'il débarque au mois d'août, c'est pas évident. J'entends complètement l'argument de il faut que ses enfants puissent être bien, que son épouse puisse être bien, que lui-même puisse être bien. Là, il a une préparation, il connaît l'effectif. Christophe Galtier a l'air de... répondre entre guillemets à ses attentes et d'écouter un petit peu plus ses envies de positionnement. Donc jusqu'à la Coupe du Monde, moi je suis pas forcément inquiet. C'est l'objectif de sa carrière en fait. Il a déjà gagné, je sais plus, je crois que c'est 4 Ligues des Champions. Maintenant il est même champion de France, un titre très important dans sa carrière. Et le trophée des champions, il manque plus que la coupe et sa carrière est réussie.
Ouais. Par contre, il regrette que la coupe de la Ligue ait été annulée en France parce qu'il aurait bien aimé la gagner.
C'est un point commun avec lui.
Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, jusqu'à la Coupe du Monde, je pense que tous vont être dans un état d'esprit parfait. Et même Neymar, d'ailleurs, on l'a beaucoup critiqué quand il n'était pas au niveau. Et là, il fait un retour qui plutôt est emballant et donne envie. Maintenant, c'est la pré-Coupe du Monde qui moi, m'inquiète. On verra. Après, s'il est dans un très bon état d'esprit et physique maintenant, peut-être qu'en janvier, ça sera pareil. Maintenant, je doute quand même que les stars du PSG aient très envie de fouler la pelouse de la Méno le 28 décembre lorsqu'il faudra rechausser les crampons après la Coupe du Monde.
Alors, je précise que ce match aura lieu au Parc des Princes.
Ah, il est au Parc. Bon, oui. Voilà.
PSG Strasbourg, 28 décembre.
D'accord. Mais ce qui fait que là, Messi, je pense que ça va être top. Parce qu'il prépare aussi sa Coupe du Monde. Peut-être aussi qu'il y a quand même une réaction d'orgueil du champion. On parle d'un joueur quand même. L'année dernière, les gens ont été déçus, c'est normal. Mais on parle d'un très grand champion. Donc il y a peut-être aussi il y a quand même l'orgueil qui parle. Mais l'après-Coupe du Monde, pour moi, il y a quand même quelques interrogations sur la suite. Parce que dans quel état d'esprit ils vont revenir? Moi, je me rappelle de la saison où on a perdu la Ligue des Champions. Trois jours après, alors ça a été repoussé un peu puisqu'ils sont partis à Ibiza, mais à Lens, ils ont perdu, ils ont eu du mal à repartir. Mais ce qui est normal, en fait, parce que psychologiquement, c'est dur de perdre une finale de Ligue des Champions. Normalement, on la perd fin mai, et les joueurs peuvent partir en vacances pour oublier. Et là, les joueurs qui vont perdre la Coupe du Monde, bah, va falloir se remettre tout de suite sur le championnat.
Je veux dire, faisons un scénario un peu catastrophe. Messi perd en finale. Tu vois, grosse déception, machin. Effectivement, peut-être tu peux te dire que là, tu peux le perdre pour le reste de l'année.
Bah, c'est pas impossible, mais sauf qu'il n'y a pas que Messi qui risque de perdre la Coupe du Monde.
Il y aura forcément Neymar, Messi ou Mbappé, il y en a les trois qui vont la perdre.
Ah, bah, il y en a même deux qui vont la perdre. Donc, psychologiquement, c'est peut-être ce qui va être dur à gérer. Donc, à la rigueur, si Galtier déjà se met dans la poche les joueurs en disant, ou les joueurs se disent, bon, il nous écoute, il a compris qu'on était des génies et il essaye de faire jouer un peu l'équipe. Si à minima ils sont dans de bonnes intentions, allez, on a peut-être une chance de les récupérer en février ou en mars. Mais ça va être compliqué, et pas que pour le PSG. Hein. Il y a beaucoup d'équipes avec des internationaux. Psychologiquement, il y en a qui vont avoir des grandes déceptions. Donc bon.
Mais on l'a vu, c'est intéressant.
Je vous prédis que Auxerre va faire un gros mois de janvier.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai, c'est l'un des grands intérêts de cette saison. Et moi, je me souviens de Rennes, du temps de Frédéric Antonetti. Alors, c'était pas la Coupe du Monde, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Rennes marchait sur l'eau, avec notamment ils avaient un attaquant extraordinaire, là, qui faisait une saison,
Azamou Adjiane. Non,
c'est, bon, bref. Et quelqu'un joue au Paris FC après.
Pi 3 pas,
exactement. Jonathan. Et qui, après la Coupe d'Afrique des Nations, a disparu des radars complets.
Il a fait deux pas en avant et puis trois pas en arrière.
Voilà, bravo, voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et sur la CAN, c'est très fréquent de voir des joueurs qui, en cœur de saison, comme ça, partent à la Coupe d'Afrique en pleine bourre et puis reviennent pour X raisons dans un autre état. Donc, ce sera effectivement l'une des.
D'ailleurs, il est censé y avoir une Coupe d'Afrique en juin. Censé, hein, parce qu'il n'est pas impossible qu'il soit déplacé.
D'accord.
Ouais, en Côte d'Ivoire. Sauf que c'est bien fait. Ça a été placé au moment de la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Et la saison des pluies en Côte d'Ivoire, c'est pas les averses, quoi. Donc, je pense que ça devrait être déplacé.
Mais t'es sûr qu'elle n'a pas été reportée?
Non, pas encore. Enfin,
ah oui, d'accord, j'ai anticipé.
Moi, ça
me semble dingue.
J'ai dû voir un conditionnel.
Va jouer en Inde au moment de la mousson. Enfin, ça, c'est quoi? C'est une aberration totale. Bref, bon, on verra. C'est un autre sujet.
On joue bien à Strasbourg en hiver. On peut jouer au foot partout. L'une des grandes caractéristiques du foot, c'est de jouer sur tout terrain, en toute saison.
Tu me permets un petit coup de gueule là-dessus? Je n'en peux plus des commentateurs de foot qui te parlent que de la chaleur.
Ouais.
Mais quand t'as des athlètes de 20 ans, là, il fait 25 degrés, mais il n'y a aucun problème. Et donc, quand il fait moins 10 en hiver, par contre, c'est super, là. Là, personne ne dit rien.
Alors, c'est pas, pour être très honnête, t'as raison, alors, moi, c'est pas dire, 25.
Le problème.
C'était 37
le problème,
à 12.
C'est, on pense aux gens, mais on pense pas aux spectateurs. Moi, tu préfères aller voir un match quand il fait 25 ou 28 tranquillement à Rennes, toi, ou tu préfères y aller au mois de janvier quand il fait moins 5?
À Rennes, il fait 35, 36, hein.
Non, mais bref. Donc, vive le football l'été.
Moi, j'aime les deux. Non, moi, j'aime le football sur toute saison. Et je trouve que ça a aussi beaucoup de charme d'aller voir un match à Strasbourg au mois de décembre et d'aller au marché de Noël en même temps et de faire son match de foot. Et voilà.
Bah, t'as pris un exemple qui est, comment dirais-je, hors du temps. Dans quelques instants, Aubin sera avec nous pour continuer sur Messi et le PSG et sur Galtier sa gestion finalement de l'avant-saison qui s'avère être pas mal. On apprend pas mal de choses. Et puis on va rentrer dans les détails un peu tactiques d'utilisation de Messi. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
22h49, Stéphane Guy et Florent Gautreau sont dans l'After. On va parler de l'OM juste après 23h, bien sûr. Stéphane veut en parler. On va parler de Monaco qui joue demain face au PSV Eindhoven. Son match retour, ce sera à vivre demain sur RMC. D'ailleurs, on va accueillir Robin dans quelques secondes, mais petit point tactique quand même. Parce qu'on dit oui, l'utilisation de Messi et tout. Donc, en fait, Messi, lui, ce qu'il veut, c'est être derrière Neymar, Mbappé et en gros avoir la liberté totale de faire d'aller où il veut. Voilà. Et il dit, ouais, c'est ça son idéal.
Comme il joue au Barça, où il était. C'était un joueur axial au Barça. C'était l'homme libre.
C'est l'homme libre. Ça lui permet quand même, par rapport aux courses, c'est évident d'avoir moins de courses à faire. Mais ce qui est à noter sur le match c'est ça qui est quand même dingue au foot, en termes de quand t'as changement d'entraîneur, quand t'as changement de discours, quand t'as la Coupe du Monde qui arrive, etc. T'as des scènes.
Quoi, tu l'as vu courir à Clermont comme il n'a pas
couru. Je l'ai vu courir sur un appel pour avoir une action qui finalement c'est pas lui qui a eu le ballon à la fin. Et c'était quand même un truc de fou. On a vu Galtier lui demander, je sais plus si c'est au Trophée des Champions ou là, d'aller courir et d'aller faire des sprints. Honnêtement, qu'on l'aura pas vu faire l'an dernier. Donc c'est même pas pour taper sur Pochettino, c'est plutôt pour taper sur les joueurs. T'as quand même des des attitudes qui sont différentes selon les moments.
Donc juste pour finir, je l'ai vu l'an dernier. Bon, il se trouve que j'étais à Strasbourg PSG. Je me suis dit tiens, je vais regarder. Il y a certaines actions. Il s'éloignait volontairement de l'action en mode oubliez-moi. Ça, c'est quand même flippant. C'est Messi. Il était là le long de la touche. Il attendait que l'action se termine. Puis il faisait trois pas et demi pour aller se replacer plus ou moins. Donc il en était arrivé là quand même.
Hein. Ouais, en janvier à Strasbourg ou pas?
Non. C'était un peu plus tard.
Non, moi je vais dire que j'ai vécu la même scène à Rennes et c'était au mois d'octobre puisqu'ils avaient perdu sur ce match-là. Et c'était assez étonnant parce que tout le monde l'a vu l'an dernier. Mais après tactiquement effectivement là où il apporte tout c'est y compris sur les deuxièmes ballons. Parce que il y a tout le travail fait par les attaquants et là je trouve que lui évidemment il peut profiter de tous les deuxièmes ballons dans les récupérations, dans les petits dribbles. Je trouve qu'on a dans l'attitude, le fait qu'il soit dans ce positionnement-là, ça lui donne lui-même plus de plaisir. Je pense qu'il prend plus de plaisir de toute façon que ce qu'il a pu connaître, mais effectivement, il est dans son rôle. Après, le vrai problème, c'est que on va avoir plein de débats sur le Paris Saint-Germain et sur Galtier, entre ceux qui disent alors vous n'aimiez pas Galtier et alors ça marche, et les autres. Alors que comme l'a dit Stéphane, t'as la Coupe du Monde qui va être un moment clé, charnière. Et puis derrière va arriver ce qu'on attend comme tous les ans, c'est-à-dire les matchs importants. Donc, on n'a pas beaucoup de conclusions à tirer, si ce n'est que les joueurs sont motivés, heureux d'être ensemble et que Galtier a réussi ses premiers pas.
Ce qui est déjà important.
Oui, bien sûr.
Mais Tourelle avait fait un formidable début avec le Paris Saint-Germain. Pour ne citer que c'était, il y en a eu d'autres avant lui, mais Tourelle avait le football de Tourelle les jusqu'à Noël, c'était enchanteur.
Et le management. On disait qu'à l'époque, alors que c'était pas du tout
La fameuse calinothérapie.
La calinothérapie, mais ce qui était drôle, c'est que les Allemands expliquaient, mais on est surpris parce que Tourelle, il est pas comme ça d'habitude. Il avait choisi aussi, si tu veux, d'aller les câliner. Je pense que là, le truc seulement intéressant, c'est le côté aussi un peu good cop, bad cop, entre guillemets, entre Luis Campos et Galtier. Ça décharge Galtier du côté bad cop, entre guillemets, puisque Luis Campos va incarner un peu cette, s'il y a des problèmes, cette autorité-là. Donc, ça lui permet donc à Galtier d'avoir ce discours-là en disant, j'ai dit à Messi, j'ai expliqué, on a l'impression de voir Deschamps parfois quand il est avec ses joueurs, enfin, quand il en parle en conférence de presse. Bon. Tout va très bien, mais je dis encore une fois, Galtier, pour l'instant, il n'a fait que des choses. Il n'a pas fait ce qu'a fait Tudor, par exemple, avec Payet. Il n'a pas eu à faire ça. Donc, il a fait des choses que les joueurs attendaient. Donc, attendons les premiers choix compliqués.
Aubin est là au 32-16. Salut Aubin.
Salut Aubin.
Bonsoir Gilbert. Bonsoir tout le monde.
T'es d'accord avec ce que t'as entendu jusque-là sur Messi?
Grosso modo, je suis d'accord. Après, la notion du nouveau Messi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que on n'avait pas perdu Messi. C'est simplement que les gens oublient que passer 20 ans dans un club, dans une ville, et quand tu te retrouves dans une nouvelle ville avec une nouvelle langue, un nouveau club, un nouvel ADN, avec la Copa América.
Aubin, si quand Messi arrive en août dernier au PSG, on te dit que en Ligue 1. Il va marquer 6 buts dans la saison. Tu aurais dit oui, c'est normal parce qu'il faut qu'il s'habitue à Paris, il faut que ses enfants soient heureux et que sa femme trouve un coiffeur. C'est ça l'idée?
Alors, Stéphane, je suis complètement d'accord avec toi. Personne n'y aurait cru. Mais je ne veux pas me vanter, mais moi, je savais qu'il n'allait pas faire une grosse saison. Je le savais. Maintenant, de là, mettre 6 buts, je te le concède, non.
Voilà, il est en dessous des radars, Messi.
Ouais, moi, il y a deux choses qui me font dire que Messi, au début d'une grosse saison, vous savez, c'est quoi? La première, c'est la joie qu'il avait quand il a marqué au Trophée des Champions. D'accord? Il avait une joie comme ça. C'était, l'année dernière, quand il marquait, il n'avait pas, sauf le but contre City, mais sinon, il n'avait pas autant de joie. Et la deuxième chose, c'est qu'on retrouve un Messi dans l'axe qui est dévastateur. Parce que si vous vous rappelez l'année dernière, il passait dans l'axe, il tentait l'axe, il passait jamais. Et c'est ce qui nous manquait l'année dernière, c'est pouvoir perforer dans l'axe. Sur les côtés, on a Hakimi, on a Nuno Mendes et Mbappé, quand il a envie d'être sur le côté, il n'y avait pas de problème. Mais dans l'axe, on n'avait personne. Et Neymar, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Et là, je ne sais pas si vous avez bien regardé les deux matchs, mais le mec, dans l'axe, ça passe à tous les coups. Ça passe à tous les coups. Et c'est ça. Et on retrouve le Messi d'il y a 5 ou 7 ans du Barça, où en fait, l'axe pouvait être 3. Il passera quand même. Que ce soit des 1-2 ou des crochets, des fins, enfin bon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de discuter de ça.
Bah, attendons de voir quelques matchs encore. Une nouvelle fois, bon, et là on en a vu deux, hein, Trophée des Champions et Clermont.
Encore une fois, je pense que cet homme-là est habité, comme tous les grands champions, par l'objectif Coupe du Monde et que là on va se régaler. Ils vont nous régaler jusqu'à la Coupe du Monde.
Merci Aubin.
Merci Gilbert, m'en fait passer. Stéphane, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu parles très bien foot.
Merci.
Et je veux pas faire la palissade sur Canal, mais bon, on la connaît l'histoire. Bravo en tout cas.
Salut Aubin.
Aubin comme Saint-Aubin-des-Bois. On en revient là.
Hein? Saint-Aubin-des-Bois, c'est.
Saint-Aubin-des-Bois. C'est la lui. Ferme où j'allais chercher le lait quand j'étais gamin.
Ah, Saint-Aubin-des-Bois.
Ben ouais.
Comme Aubin Weber aussi.
Un beau prénom Aubin, hein.
J'ai pas mal de messages sur les jeunes, sur Direct Studio. On nous dit, ouais, quand même, regardez, il y a des gars, femmes nous disent, regardez Agüero, il a débarré à 15 ans. Bon, bah, il n'y a pas eu de problème majeur concernant Agüero. On me signale, Basile Boli a commencé à 16 ans. Ça reste.
CFA, 16 ans, CFA.
Voilà. Comme on disait. Lui-même ayant expliqué à plusieurs reprises.
On n'a plus le droit, je crois, de dire ça, c'est pareil, ça doit être très politiquement correct de dire 16 ans, CFA.
Exactement, ça ne se fait plus. Mais voilà, c'est un débat qui intéresse, on pourra le refaire avec Coach Courbis. Dans quelques instants, on va parler de l'OM, qui, hier, a été étonnant parce que nouvelle équipe, nouvelle stratégie, nouveau management. Donc, Stéphane va en parler, ce sera dans quelques instants. Dans l'after, on se retrouve très vite, supporters de l'OM. Le 32-16 est ouvert. Et puis les infos de Monaco avant le match de demain face au PSV Eindhoven avant minuit. Un peu de mercato aussi. Monaco notamment a recruté aujourd'hui. Vous aurez toutes les infos dans quelques minutes dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.